Eh bien maintenant, j'ai souhaité donner la parole à un père qui, à travers son parcours personnel de séparation et de bataille judiciaire, illustre les limites d'un système parfois sourd à l'implication des parents. Confronté à des décisions injustes malgré sa présence active auprès de son enfant, il partage son ressenti, son analyse du fonctionnement de la justice familiale et la manière dont il a trouvé du soutien dans un groupe Facebook dédié aux parents en difficulté. Un témoignage lucide et sincère entre vécu intime et réflexion citoyenne.
Eh bien César, t'as écouté les témoignages précédents, qu'est-ce qui t'a marqué dans ces récits?
Ouais, c'est un peu marrant parce que, bah, en fait, tous ces gens-là, je les connais à travers Internet et les réseaux, parce que dans mon histoire, j'ai fait le parcours, je pense, un peu classique, quoi. Il y a les sanctions, entre guillemets, qui te tombent dessus, et donc tu cherches un peu, tu regardes un peu sur Internet, tu tombes sur défendre les enfants, tu vas sur Facebook, tu tombes sur défendre des papas, enfin papa en colère ou papa en colère entraide. Donc tous ces gens-là, je les connais à travers les réseaux un petit peu et voilà, mais les entendre et entendre leur voix, c'est assez drôle, oui.
Alors est-ce que tu peux te présenter brièvement en quelques mots?
Oui, donc je suis donc chef d'entreprise, je suis dans le sud-ouest, à Bordeaux, et j'ai été marié donc avec une femme pendant 10 ans, on a eu 2 enfants. Ils ont aujourd'hui 2 et 4 ans, ils vont sur leurs 3 et 5 ans. Et donc, on est en procédure de divorce. Elle m'a fait sa demande de divorce de manière inattendue, je m'y attendais pas vraiment. On était normalement en discussion pour avoir une séparation à l'amiable, à sa demande. Et d'un coup, j'ai reçu demande de divorce avec demande de retrait de l'exercice parental, que je vois mes enfants 2 heures en zone protégée, 100 000 euros, enfin bon, la totale quoi.
Et t'avais imaginé un jour vivre un conflit autour de la parentalité? Et devoir passer par la justice familiale?
Ah non, mais pas du tout. Moi, j'étais vraiment... Donc, on a vécu 10 ans super heureux. Ça s'est dégradé la dernière année avant la séparation. On est allé voir une psychanalyse de couple. Bon, ça a pas forcément amélioré les choses. Et puis, au bout d'un moment, elle a un peu craqué. Elle m'a demandé, trouvons des solutions pour se séparer. On était en train de parler, quoi, de négocier. J'avais fait la proposition de voir un médiateur et j'attendais un petit peu ses propositions, comment elle comptait se séparer, puisque c'était sa volonté. Et du jour au lendemain, j'ai reçu demande de divorce, assignation, un huissier. Je découvre 3 plaintes pour violence contre elle, harcèlement, violence contre mes enfants. J'en ai jamais entendu parler. Je vois qu'il y a des plaintes à la police. J'étais encore à venir un jour sur deux à la maison, puisque on devait se séparer. Moi, j'ai mis un peu mes distances parce que si tu veux, on a eu une relation super conflictuelle à partir de ce moment-là. Donc on se disputait beaucoup. Donc pour le bien un peu de la famille et des enfants, j'ai mis les distances et j'allais dormir un jour sur deux chez ma sœur. Donc j'étais encore à la maison, si tu veux. Un week-end sur deux, j'étais là. Un jour sur deux, j'allais chercher mes enfants le matin à l'école. Je les emmenais à l'école. J'allais les chercher, je les ramenais chez leur mère. Soit je les gardais. Donc moi, j'étais en attente de... qu'est-ce qu'on fait, en fait? Je m'attendais pas du tout. Et puis, il y avait surtout jamais eu de questions de violence, de harcèlement contre elle. Donc, j'ai dû prendre une avocate en urgence. Et puis là, je suis tombé dans toutes les méandres de la justice.
Alors, justement, est-ce que tu t'es senti écouté par les institutions à ce moment-là ou pas?
Bah, c'est-à-dire que, vu qu'il y a eu plainte pour violence, on a eu aussi assistante sociale. Donc, les assistantes sociales m'ont reçu comme, en fait, j'étais coupable de fait, hein. C'est-à-dire que elles ont fait leur petite enquête pour voir si j'étais violent. Et puis un jour, elles n'ont rien trouvé, hein, évidemment. Et puis un jour, elles me demandent de venir. Donc c'est des associations d'assistantes publiques qui font des enquêtes suite à des plaintes, quand tu as une plainte contre toi de violence contre les enfants. Donc elles n'ont rien trouvé sur les enfants. Mais par contre, voyant le conflit, elles me regardent droit dans les yeux. Elle m'a dit, mais quand est-ce que monsieur, vous partez de la maison? Je lui ai dit, mais moi, je comprends pas en fait pourquoi vous me demandez de partir. Soit je suis violent avec mes enfants et à ce moment-là, on me met en prison. Soit vous voyez que je suis pas violent. Et pourquoi ce serait à moi de partir et de quitter ma famille? En fait, c'est madame qui veut se séparer. Donc j'ai eu les assistantes sociales qui m'ont... c'était un peu horrible. Ensuite, au niveau des institutions, j'ai eu la police, puisque j'ai été convoqué par la police pour être entendu pour les plaintes pour harcèlement. Pas pour les enfants, puisque c'était les assistantes sociales qui ont fait l'enquête, entre guillemets, mais pour le harcèlement pour madame, c'était la police. Quand je suis arrivé à la police, le policier m'a un peu rayonné en me disant « mais pff, en gros, j'ai pas que ça à faire, sa plainte, elle tient pas debout ». Bon, il m'a entendu quand même. Dans la minute, j'étais relaxé, non-lieu, si tu veux. Et puis ensuite, il y a la procédure de jugement directement. Donc là, j'ai reçu le jugement pour plainte. Enfin, la demande de divorce, pardon. Donc, je suis allé voir une avocate. Et comme il y avait violence, harcèlement et des plaintes, ça permet de passer devant le juge en urgence, en un mois, en fait. Donc, j'avais un mois pour me retourner, pour défendre à toutes les critiques. Et voilà. Et ensuite, on est passé devant la juge aux affaires familiales, la JAF.
Et tu as déjà reçu ton jugement ou c'est encore en cours?
Alors, oui, non. On est passé devant la JAF en urgence. Finalement, c'est une situation incroyable, c'est-à-dire que devant la JAF, devant la juge, madame mentait, en fait. Donc la juge l'a remarqué, puisqu'elle annonçait qu'elle gagnait 1000 euros par mois, alors qu'elle en gagnait 2500. Et donc, elle disait je gagne 1000 euros par mois, mais en même temps, elle présentait des dépenses supérieures à 1000 euros. La juge le voit, donc elle demande mais madame, vous gagnez combien? Madame, qui n'ose pas mentir devant le juge, lui dit je gagne 2500. La juge lui dit mais vous écrivez que vous gagnez 1000, madame. Et pareil, elle dit que j'ai quitté le domicile familial, que je suis plus à la maison et qu'elle s'occupe des enfants toute seule. Et alors que moi, je présente des textos où il y a la liste de courses qu'elle me demande de ramener, où je dis je vais chercher les enfants, où elle me dit est-ce que tu peux aller chercher les enfants, et elle dit que je suis pas là. Donc la juge lui dit mais pourquoi vous dites qu'il est pas là alors que vous, il y a bien des preuves qu'il est là. Et voilà, elle a pas su répondre. Donc devant la juge, elle s'est parjurée, enfin elle a pas menti à l'oral, mais à l'écrit elle a parjuré, elle a présenté une situation fausse. Et voilà, et à la décision de justice, 3 mois plus tard, je vois dans la décision la juge qui écrit « Madame gagne bien 1000 euros », alors que devant elle, elle avait notifié l'inverse. « Monsieur a bien quitté le domicile familial », alors que devant elle, la juge avait notifié l'inverse. Donc, on donne la garde à madame. Donc, ils ne m'ont pas enlevé l'exercice parental. Ils n'ont pas accepté que j'aille les voir que 2 heures par mois dans un centre. Mais ils m'ont donné la garde, ce qu'on appelle classique, c'est-à-dire un week-end par mois et la moitié des vacances. Deux week-ends par mois, pardon, et la moitié des vacances.
Et quelles conséquences tout ça a eu concrètement sur ton quotidien et sur ta relation avec tes enfants?
C'est horrible, parce que déjà, j'ai oublié de te le dire, mais on avait une maison, donc on a acheté une maison avec un emprunt. Donc lors du jugement, elle a obtenu ce qu'on appelle la jouissance gratuite du logement, donc elle ne me paye pas de loyer, mais elle reste dans le domicile avec tous les meubles. Et puis, on doit continuer à payer le crédit. Donc moi, je payais mon crédit et ensuite, il a fallu que je me trouve un logement. Donc je payais mon logement d'un côté, le crédit de la moitié du crédit de la maison, plus la moitié des charges, puisque j'ai été condamné à payer, c'est normal, hein, mais la moitié de l'école, la moitié des frais, plus une pension alimentaire. Donc ça a commencé à faire beaucoup. Si tu veux, moi, à la fin du mois, je me retrouve avec plus rien. Enfin, la dernière semaine de chaque mois, j'ai plus d'argent.
T'as été surpris donc de la façon dont fonctionne la justice familiale?
Ah, c'est complètement... Ça te détruit, en fait. Mon avocate me l'avait annoncé, si tu veux. Donc à Bordeaux, ce qu'il faut savoir, c'est ils sont débordés. Donc quand tu fais une demande classique, s'il n'y a pas de violence, s'il n'y a pas s'il n'y a pas de raison pour passer en urgence, tu peux attendre un an et demi pour passer devant le juge. Donc c'est un peu pour ça qu'en fait elle a fait toutes les plaintes. C'est pas pour mentir, pour me dénigrer particulièrement, c'est pour pouvoir passer plus vite. Mais c'est horrible. Donc du coup, déjà t'as toutes les accusations contre toi, tu dois te défendre. Au lieu de parler du fond du sujet qui est les enfants, comment on fait pour vivre et que la juge puisse décider la meilleure solution pour les enfants, t'es en train de te détricoter pour te défendre. Donc déjà, ça, c'est horrible. Et ensuite, la justice montre que madame ment, elle le voit, elle le notifie, elle en prend pas, elle fait les conclusions, on donne quand même les enfants à la mère, et c'est l'intérêt des enfants de rester avec leur mère. Et là, moi, je comprends pas pourquoi, en fait. J'ai toujours été un bon père, je m'en suis toujours occupé, je les ai emmenés à l'école, je les ramenais. J'ai toujours tout fait pour eux. Ils sont petits en plus. Il y a le lien d'attachement qui est compliqué à cet âge-là. Il faut être un peu présent, quoi. Donc, du jour au lendemain, tu les vois qu'un week-end sur deux. Ça fait 4 jours par mois. Ça fait une cinquantaine de jours à l'année. Bon, tu le vis pas bien.
Donc,
tu
as eu recours à un avocat. Comment ça s'est passé?
Mon avocate était résignée dès le début. En fait, elle m'a expliqué. Elle m'a dit, en fait, les juges ne se préoccupent pas de savoir qui a raison, qui a tort. Ils regardent l'intérêt des enfants. Donc tu peux mentir, tu peux... Voilà. Elle me l'a expliqué dès le début. En fait, ils ont deux cartes. soit on s'entend bien, et en fait ils ont rien à faire, ils suivent ce que dit le couple, soit ils donnent la garde exclusive à l'un des deux. Et généralement, c'est la mère. Pourquoi ? Mais ça, je crois que c'est Fabrice qui le disait. Il le donne à la mère parce que généralement, et c'est exactement mon cas, c'est pour ça que l'écho par rapport aux autres podcasts est incroyable, c'est que moi, c'est moi qui ai quitté le logement physiquement, effectivement. Je revenais tous les deux jours, mais j'ai quitté le logement pour le bien des enfants. Ils étaient petits et parce que ma femme n'avait pas les moyens de pouvoir se prendre un autre logement, n'avait pas de famille à côté. Moi, j'avais ma sœur à côté, donc j'ai pu aller chez ma sœur pour préserver le peu de relations qu'on avait. Et donc, une fois que j'étais parti chez ma sœur, j'avais perdu. En fait, le juge a dit, mais monsieur, vous êtes parti, madame s'occupe des enfants, donc on reste comme ça, il n'y a aucune raison de changer. Ils ont déjà un cadre fixe, en fait. Donc, c'est horrible. Voilà.
Et tu ressens une forme d'automatisme dans les décisions rendues comme ça par les JAF ?
Je le ressens, mais je ne peux pas savoir ce... Mon avocate m'avait prévenu que c'était comme ça. Depuis qu'il y a eu cette décision, du coup, j'ai pris contact avec toutes les associations d'aide des papas pour essayer de comprendre. Et je me suis rendu compte que c'est un peu la œuf jambon fromage que je vis. C'est un peu le minimum de ce que peuvent vivre la plupart des gens, en tout cas, qui suivent ces associations.
Ouais, donc beaucoup de similitudes dans ton histoire avec celle des autres que tu lis sur ces pages, en fait.
Ah oui, et puis alors moi, il y en a, c'est bien pire. Il y en a, ils ont vraiment visite en garde. Bon, après, tu connais jamais les vraies histoires, tu sais jamais s'ils ont vraiment été violents. Et puis moi aussi, je le dis à l'oral, là. Et puis finalement, dans le fond, peut-être que j'ai vraiment été violent. Mais bon, la police, l'enquête de police a bien démontré que non, l'enquête des assistantes sociales, non. Mais je suis passé à deux doigts que la juge puisse se dire, en fait, on n'en sait rien s'il est violent. Et pour éviter tout risque, on va quand même le mettre avec un suivi psychologique. On va quand même. En fait, on n'est plus dans de la justice. C'est ça qui est très compliqué à vivre, en fait. C'est que tu dois prouver ton innocence. Dans le droit français, normalement, c'est l'inverse. T'es innocent jusqu'à ce qu'on te prouve coupable. Dans les affaires familiales, tu ressens t'es coupable et tu dois prouver ton innocence. C'est à toi de montrer que t'es un bon père. C'est à toi de montrer que t'es présent. C'est à toi de montrer que, voilà. Et si madame, ou ça peut arriver dans l'autre cas, je suppose que ça doit arriver à l'inverse, mais dans mon cas en tout cas, madame ment, ça met un doute. Elle a menti, mais ça met quand même le doute. En gros, il n'y a pas de fumée sans feu. Si elle porte plainte, si elle veut quitter monsieur, c'est sûrement qu'il n'est pas parfait. Et donc, toi, tu vis ça comme une énorme injustice.
Et à quel moment tu as commencé à chercher du soutien à l'extérieur ?
Tout de suite, en fait. Je suis tout de suite allé sur Internet. J'ai tout de suite recherché garde alternée. En fait, je me suis renseigné sur la garde alternée, comment l'obtenir au niveau... Quand tu fais tes demandes auprès du juge, ton avocate... Elle t'aide comme elle peut, mais c'est pour ça que je te disais que j'ai un peu d'expérience, parce que dans mon travail, si tu veux, j'ai affaire soit au prud'homme, soit à la justice économique, en fait. Tu dois toujours faire la moitié du boulot des avocats, parce que les avocats peuvent pas connaître toute ta vie, tous les détails, ils peuvent pas penser à tout, à tous les textos que t'as envoyés, toutes les preuves. Donc forcément, il y a une part de travail que toi tu dois faire. Donc moi, je me suis renseigné sur comment obtenir la garde alternée, et c'est comme ça que je suis tombé sur défendre les enfants, sur cette fameuse loi qui a été proposée par Christine Le Nabur, la PPL là, dont vous parlez tout le temps dans le podcast. C'est en m'intéressant au sujet, en essayant de me défendre moi, en fait, que j'ai pris conscience qu'il y avait tout un monde derrière qui était dans le même cas que moi et qui se défendait, qui essayait de défendre cette situation de garde alternée.
Donc ça t'arrive encore aujourd'hui de conseiller ou d'écouter les conseils d'autres parents via... C'est pas
oui, du coup, ça m'occupe aussi parce que tu vois tes enfants que 4 jours par mois, ça te laisse beaucoup de temps libre et donc j'ai pas mal de temps tout seul chez moi où je regarde les posts des gens sur papa en colère, entraide, papa en colère et j'essaye de répondre au mieux. J'ai des conseils un peu de base qui reviennent toujours pareil, c'est ne jamais s'énerver. En fait, il y a une base de comportement à avoir face au juge, qui est de montrer que t'es le meilleur père possible. Voilà. C'est ce que je te disais il faut prouver que tu es en capacité d'accueillir tes enfants, que tu les accompagnes, que tu t'occupes d'eux, que tu t'intéresses à eux, que tu vas à l'école. C'est-à-dire que même si on te met des barrières dans les roues, même si madame ne te donne pas d'informations, ne te tient pas au courant sur la santé des enfants, sur voilà, toi tu prends rendez-vous avec l'école, tu vas voir les professeurs, tu demandes, même si c'est pas avec tes enfants en fait. Il faut montrer que tu t'occupes de tes enfants, que tu veux t'impliquer et que tu n'as rien à te reprocher. Et donc c'est les conseils que je donne. Et surtout ne jamais s'énerver, parce que dès que tu t'énerves, c'est retourné contre toi, c'est monsieur est violent en fait, ou a une tendance à être violent. Et là t'as perdu.
Est-ce que tu penses que ces groupes comme Papa en colère par exemple peuvent peser collectivement au-delà du soutien moral?
Ben moi j'ai l'impression, donc sur cette ça c'est je crois que c'était Fabien sur défendre les enfants qui expliquait qui essaie de faire la promotion de la loi. Donc moi j'ai pris contact avec avec lui. Ben, il m'a fait rentrer dans son groupe pour essayer de promouvoir cette loi, mais je me rends bien compte qu'il y a beaucoup d'avis différents. Le deuxième intervenant là, je me souviens plus, celui qui fait balance ton jaf, voilà, lui aussi je l'ai vu sur les réseaux, il a une peut-être une autre approche, un peu plus terrain. Alors que défendre les enfants va essayer de passer sur la promotion de la loi et sur les institutions et sur montrer qu'il y a un dysfonctionnement de la justice. Et donc il y a je pense qu'ils peuvent avoir un impact parce que toutes ces approches étant différentes, ça amène un poids, je pense, oui.
Et tu sens qu'un mouvement est en train de se construire en ce moment autour de toutes ces questions-là ?
Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, j'ai l'impression, et je pense, ce que je me dis, c'est une fois, moi je suis en train de me battre pour évidemment obtenir la garde alternée ou plus, hein, est-ce que j'aurai toujours la motivation si je l'obtiens 5-6 ans après, une fois que t'es revenu un peu dans un cadre un petit peu plus serein, quand t'es moins la tête dans le guidon, est-ce que t'as toujours envie de t'impliquer? Donc, est-ce que ce sont pas des situations ponctuelles? Bon, bien évidemment, hein, t'as des gens qui vivent ça pendant des années. Bah, celui de Balance ton Jaf, là, il expliquait, ça faisait combien de temps? 8 ans ou 9 ans qu'il était en procédure. Donc, évidemment, là, il s'arrêtera jamais. Mais il y en a, leur procédure, finalement, elle dure 2-3 ans parce que les enfants sont petits, ils ont réussi à obtenir la garde alternée. Est-ce que ces parents-là vont continuer à s'investir? Je sais pas. Est-ce que moi, je continuerai à m'investir? Je pense que oui, mais je ne peux pas prédire l'avenir.
Est-ce que tu penses que ton histoire aurait été différente avec une autre loi ou une autre façon de, une autre manière de juger?
Bah là, dans mon cas, je pense que oui, en fait, puisque il y a des accusations prouvées fausses et il y a des mensonges avérés par la juge. Donc si le cadre de base est on met la garde alternée, je pense que j'aurais pu l'obtenir, oui. Alors, ou pas, hein, parce que évidemment, comme cette loi n'est qu'un cadre, la juge aura toujours la liberté de prendre les éléments qu'elle souhaite pour te dire que tu n'auras pas la garde de l'enfant, mais a priori, je pense que ça aurait pu être favorable pour moi. Et puis, si ça l'avait pas été, ça l'aurait peut-être été en appel, parce que évidemment, je suis allé en appel de cette décision. Et donc en appel, j'ai eu en fait exactement les mêmes résultats, c'est-à-dire que, alors là c'est pire en appel, parce que avec la JAF, tu passes en interview, c'est-à-dire que tu rentres dans un bureau, tu es assis face à la juge avec ton avocate, l'avocate de madame et madame. Donc vous êtes tous les quatre, plus les greffiers éventuellement, et il y a les présentations des deux avocats, ça reste un peu humain entre guillemets. Mais alors, la cour d'appel, alors là, ça te broie. Tu passes à la queue leu-leu, tu as 5 minutes pour parler, pour présenter, donc tu passes des viols, tu as toutes les histoires. Moi, j'ai été convoqué à 8h du matin, je suis passé à 11h45. À la fin de la matinée, les deux juges, elles avaient écouté 15 histoires différentes. À la mienne, ils avaient envie que d'une chose, c'est d'aller manger, quoi, et de prendre son café. En tout cas, c'est la sensation que tu as. Et donc, tu sors de là en te disant, j'ai perdu mon temps, ça sert à rien. Et puis, ça, la preuve, quoi. J'ai eu la décision tout de suite. Alors, cette fois-ci, elle était bien motivée. Donc, ils ont bien tout motivé. Pourquoi ceci, pourquoi que cela. Ils ont remontré que madame remontait sur ses revenus, remontait sur ma présence. Mais on va laisser la situation comme ça parce que maintenant, de toute façon, ça fait 1 an et demi que les enfants sont avec la mère. Donc là, maintenant, pour aller les récupérer, c'est extrêmement difficile.
Et comment tu vois l'avenir en tant que père et en tant que citoyen concerné?
En tant que père, j'essaye d'appliquer exactement ce que je dis, c'est-à-dire que je fais tout, je prends rendez-vous, je vais à l'école une fois par semaine. Si je peux pas y aller, je les appelle. J'envoie des messages à madame en essayant de mettre un carnet de liaison, c'est-à-dire c'est un carnet de liaison pour qui décrit ce que je fais avec les enfants, c'est-à-dire que dès que j'ai les enfants, je note ce que je fais, c'est-à-dire une activité, j'ai fait du foot avec eux, une éducation, alors là je lui ai dit non, je détaille le maximum de choses pour essayer de montrer qu'il y a une bonne relation, parce qu'en fait la juge, ce qu'elle veut, c'est que les parents s'entendent, et donc j'essaye de prouver que s'il n'y a pas de bonne entente, ça ne vient pas de moi, et que je m'intéresse à mes enfants, et puis je vais passer en divorce cette fois-ci, donc je suis passé en mesure provisoire dans un premier temps. J'ai fait appel, et là maintenant je vais passer au dernier niveau, qui est le boss final, qui est le divorce réel. Et je vais redemander la garde alternée, et puis on verra ce qu'ils me diront.
Et si tu avais un message à faire passer aux institutions, aux autres parents, ou même à tes enfants, qu'est-ce que tu dirais ?
Les autres parents, c'est faites-vous aider, venez sur tous les groupes qui sont cités là dans tous tes podcasts, renseignez-vous sur Facebook, renseignez-vous sur Internet, tous ces groupes-là apportent de bonnes... ça fait toujours du bien de parler déjà, de voir qu'on n'est pas tout seul dans ce cas-là, et d'avoir des solutions ou des aides par les autres. C'est toujours agréable. Ça, c'est pour les autres parents. Pour les institutions, soyez humains. Je pense que, je me souviens toujours pas de son nom, le deuxième podcast, la Balance ton Jaf, j'avais vu une de ses vidéos que je trouvais géniale, et ce qu'il disait aussi, c'est-à-dire que tu te maries devant la mairie et tu es condamné à la fin devant un juge, en fait. Je pense que ça, c'est pas possible. C'est pas possible qu'un juge vienne te décider pour toi et pour ta famille, et que tu sois condamné alors que tu peux pas être forcément coupable de toutes les violences dont tu peux être accusé, quoi. Et je pense qu'il y a une structure à mettre en place avant, des médiations, des assistantes sociales beaucoup mieux formées, qui viennent pas forcément te juger, mais qui viennent t'accompagner dans cette séparation. Et c'est pas possible que les conflits soient coupés d'un coup, du jour au lendemain, par un juge. Elle ne solutionne rien, elle ne fait qu'empirer la situation. Parce que s'il y a eu des fausses accusations comme les miennes, j'ai le sentiment qu'elles ont été validées par un juge, moi. Donc je peux très vite monter dans avec une haine de la justice, avec des envies de violence, vraiment en fait, ou de suicide, ou des choses comme ça. Si t'es pas fort physiquement, si t'es pas fort mentalement, tu peux vite dégringoler.
Eh ben merci beaucoup César d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, puis bon courage pour la suite. Eh bien, à l'instant, c'était le témoignage de César, un père engagé qui nous a confié avec justesse son parcours et ses blessures, mais aussi les ressources qu'il a su mobiliser pour tenir debout. Une parole précieuse à écouter, partager et faire entendre pour mieux comprendre les failles du système et les attentes de ceux qui le subissent.